Europe 1 Culture Média.
9h-11h.
Philippe Blondel.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Enchanté de vous retrouver pour Culture Média. Au menu, tous les médias, toutes les formes et tous les supports de culture. À commencer par le théâtre, le cinéma et les librairies, dont on se réjouit de la réouverture annoncée hier par le président de la République. On va y revenir. Vous retrouverez évidemment Hélène Manarino et son portrait inattendu, Eva Rock, Bertrand Chameroy et d'abord Charles Decamps pour son journal des médias évidemment, mais aussi dans notre infomédia consacré aujourd'hui aux téléfilms de Noël. Ils ont déboulé depuis des semaines et vous savez quoi, ça cartonne. On sera également avec le monsieur de TF1 qui choisit et programme ses films. Un pari ensuite, Ouest France, le premier quotidien français, propose une offre d'abonnement originale destinée aux 18-25 ans. C'est bien simple, pendant un an, tout est gratuit. Nous recevrons François-Xavier Lefranc, rédacteur en chef, et Caroline Tortelier, rédactrice en chef, en charge de l'offre jeune. Et puis on va parler musique avec un homme, Jérémy Frérot. Oui, c'est la moitié de l'ex-duo des Frérot de la Vega. Il revient pour un nouveau single. La chanson s'appelle, je sais, j'ai spoilé, ça s'appelle Un homme. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti. Bonjour Charles Decamps.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Place à votre journal des médias, le sommaire du jour.
L'audience d'Emmanuel Macron, une campagne de sensibilisation, des adieux en préparation, un retour qui a du bon, et Xavier Dolan et Taylor Swift dans votre salon.
On commence par les audiences qu'ont les Français regardé hier soir à la télévision.
Ouais, la rime c'est compliqué. Hein. Alors ouais. Ils n'ont pas regardé TF1 qui ne figure pas dans notre top 3 quotidien. C'est assez rare pour le signaler, la chaîne est quatrième et toujours très faible avec la suite de Manifest saison 2. La série américaine n'a réuni que 2 300 000 téléspectateurs pour 9,8% de part d'audience. C'est France 3 qui pointe en pole position avec deux nouveaux épisodes de Crime Parfait au compteur 4 600 000 personnes, soit 19% du public. M6 est deuxième et en baisse avec La France a un incroyable talent de retour après une semaine de pause à cause du foot. Un retour qui a quand même permis à la chaîne de fédérer 3 500 000 téléspectateurs, soit 15,1% du public. M6 est largement leader sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans à 23%. Enfin, c'est France 2 qui prend la troisième place avec une soirée spéciale Taratata 100% live. L'émission musicale de Nagui a réuni 2 700 000 téléspectateurs, soit 12,3% du public.
Culture Média.
Et on commence ce journal des médias avec une audience très attendue, celle de l'allocution du président Macron hier soir à 20h.
26,6 millions de téléspectateurs ont suivi cette nouvelle intervention du président. C'est près de 80% du public qui était branché devant sa télévision hier à 20h. TF1, France 2, M6, TMC et Canal+ l'ont retransmise. Et comme à chaque fois, c'est TF1 qui s'est imposé. 11 300 000 téléspectateurs contre 10 millions pour France 2.
À quoi il faut ajouter le score des chaînes info dont on aura le résultat seulement à 11h. Donc voilà. On vous le donnera demain. Sophie Echen l'a évoqué aux infos de 9h. Au cours de son allocution, Emmanuel Macron a fait des annonces sur le monde de la culture que vous allez nous préciser, Charles.
Voilà, bonne nouvelle pour les exploitants de cinéma et de théâtre. Les salles devraient pouvoir rouvrir à partir du 15 décembre, même en soirée, malgré un couvre-feu. Le ticket fera office d'attestation, c'est ce qu'a confirmé la députée Aurore Berger hier dans la soirée. Mais cette réouverture n'aura lieu qu'à deux conditions. Que les nouvelles contaminations quotidiennes ne dépassent pas de manière significative la barre des 5000 et qu'il n'y ait pas plus de 3000 personnes en réanimation. Les libraires, disquaires et autres magasins culturels seront quant à eux autorisés à rouvrir dès ce samedi. En revanche, l'organisation de spectacles et concerts dans des grandes salles reste pour l'heure inenvisageable à moyen terme.
Le gouvernement lance une nouvelle campagne aujourd'hui, journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes.
Harry Roselmack, Anne-Claire Coudray, Karine Viard ou encore Thomas Pesquet, ils participent tous au nouveau spot gouvernemental pour la prévention des violences faites aux femmes.
En ce 25 novembre,
journée internationale
pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes,
prenons 25 secondes.
Pour rappeler les outils à destination des victimes et témoins de violences faites aux femmes.
Le 3919,
numéro d'aide et d'écoute, anonyme et gratuit.
arrêtonslesviolences.gouv.fr.
Pour un cinéma en ligne.
Et en cas d'urgence, le 17, police secours.
Ou le 114 par SMS.
Face aux violences faites aux femmes.
Pendant le confinement,
réagir peut tout changer.
25 secondes donc pour le 25 novembre. Ce spot sera diffusé à la radio, à la télé, mais aussi sur les réseaux sociaux. Anne-Claire Coudray n'a pas hésité à participer à cette campagne particulièrement importante en cette année de confinement. Des femmes victimes de violences ont été enfermées chez elles avec leur agresseur. La journaliste a expliqué à Louise Bernard l'importance de diffuser le plus largement possible cet éventail de solutions.
Quand on propose aux femmes une seule solution qui est de pousser la porte d'un commissariat et d'aller porter plainte avec un œil au beurre noir, elles ne le feront pas parce que c'est trop douloureux pour elles, c'est trop leur demander d'un coup. C'est pour ça qu'il existe d'autres outils, le téléphone qui évidemment permet une écoute anonyme, il y a aussi le site internet qui permet de se signaler de façon anonyme et d'avoir aussi un rapport de chat. Et puis ce spot, il est à destination aussi des témoins, il n'y a pas que les victimes dans cette histoire, il y a nous tous. Si vous voyez quelque chose, signalez-le aussi de façon anonyme. C'est vrai qu'on a toujours tendance à hésiter à se mêler de la vie de nos voisins, à se mêler de la vie de nos proches, de nos amis, etc. Mais parfois ça peut vraiment se sauver des vies.
Des adieux XXL pour Jean-Pierre Pernaut le mois prochain sur TF1.
C'est le vendredi 18 décembre que le journaliste présentera son tout dernier 13h. Une page majeure de l'histoire de TF1, mais aussi de la télévision, se tournera ce jour-là. Et la Une va adapter sa programmation pour marquer le coup. Après ce dernier 13h, qui sera probablement bien plus long qu'à l'accoutumée, TF1 proposera à 14h un documentaire inédit consacré aux journalistes et intitulé Jean-Pierre Pernaut, une histoire de la télévision française. Il proposera une immersion pendant une journée dans les coulisses de la fabrication du journal, avec en parallèle un retour sur ses 48 ans de carrière.
48 ans de carrière. Et le 18 décembre sera également marqué par un retour, celui des familles Le Pic et Boulet.
France 2 a officialisé la date hier. Elle proposera ce soir-là, en prime, un téléfilm inédit, Fais pas ci, fais pas ça, 3 ans après l'arrêt de la série, à l'issue de 9 saisons. Les deux familles et leur progéniture seront tous de retour pour fêter Noël. A priori, pas question de confinement, si l'on en croit le scénario communiqué par France 2.
Le focus média du jour, c'est le partenariat entre YouTube, Arte et le CNC, le Centre National du Cinéma et de l'Image Animée.
Les trois entités ont lancé hier un portail sur YouTube baptisé Savoirs et Cultures au pluriel. Il regroupe des contenus culturels et éducatifs dont la sélection sera faite par Arte. L'objectif est de donner le plus de visibilité possible à ces contenus et donc de faciliter l'accès des internautes à ces vidéos. La directrice générale de YouTube France, Justine Rist, a expliqué à Louise Bernard pourquoi le site de partage de vidéos tenait tant à ce projet.
Les utilisateurs français de YouTube vont beaucoup sur la plateforme pour aller consommer des contenus culturels et des contenus d'éducation. Un étudiant sur deux qui utilise YouTube ont déclaré utiliser la plateforme dans le cadre de leurs devoirs ou de leurs études, comme un complément pédagogique. Et puis on a fait une étude après le premier confinement, au mois de juillet. On a mesuré que 40% des utilisateurs de YouTube en France ont déclaré que YouTube les avait aidés à accéder à des contenus culturels en ligne. Donc le savoir, la culture, ce sont deux tendances de fond.
Le partenariat entre YouTube, le CNC et Arte ne s'arrête pas là. Il y a également deux autres piliers. Le premier, c'est un programme de formation de 12 mois qui sera proposé à des institutions culturelles afin qu'elles puissent développer la visibilité de leur contenu, mais aussi à des EduTubers, ces créateurs de vidéos éducatives. Et le dernier pilier, c'est un fonds d'1 million d'euros pour soutenir la création de contenu en ligne. Il est cofinancé par YouTube et le CNC.
On connaît le nom du maître de cérémonie des prochains Césars.
Oui, ça sera une maîtresse, comme l'an dernier d'ailleurs. Marina Foïs succédera Florence Foresti aux commandes de la soirée la plus prisée du cinéma français. Il s'agira d'une première pour la comédienne. A priori, les choses devraient se dérouler plus calmement que l'an dernier, où la nomination puis la victoire de Roman Polanski avait été bruyamment contestée. Rendez-vous le 21 février sur Canal+, même si cette date reste en pointillé, évidemment, étant donné la situation sanitaire actuelle.
Et à propos de Canal+, la chaîne s'offre la première série de Xavier Dolan.
Le réalisateur québécois signera le scénario et réalisera La nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé. Il s'agit de l'adaptation de la pièce de théâtre québécoise du même nom. C'est un thriller psychologique. Pour porter la série, Xavier Dolan a fait le pari de faire appel aux comédiens qui ont défendu la pièce sur les planches. 5 épisodes sont prévus. Le tournage débutera en mars 2021 pour une diffusion en 2022 sur Canal+.
Donc ce sera en français, a priori. Cinéma toujours. Le service de streaming Molotov vient de lancer un accord avec un grand studio américain, Sony.
Oui, l'accord vient enrichir sa toute nouvelle offre de VOD gratuite baptisée Mango et lancée il y a 15 jours. Les utilisateurs de Molotov auront donc accès à des films à succès de Sony comme 7 ans au Tibet ou la saga Karate Kid. On a profité de l'occasion pour demander au cofondateur de Molotov, Jean-David Blanc, la logique de lancer une offre VOD financée par la pub alors même que les annonceurs réduisent leurs investissements publicitaires.
Je sais que ça peut paraître paradoxal, mais la vidéo à la demande financée par la publicité, qu'on appelle AVOD, est le fer de lance des nouvelles plateformes aux États-Unis où le temps passé par les utilisateurs est aujourd'hui plus important que sur les plateformes de SVOD, à savoir les plateforme par abonnement. Ce qui est nouveau, si vous voulez, c'est qu'un service gratuit de vidéo à la demande, ça n'existait pas en France. Ça permet de regarder des films, des séries, des documentaires gratuitement, à la demande et avec de la publicité adressée à chacun des utilisateurs. Donc moins de publicité, plus efficace pour l'annonceur.
Aux États-Unis, le marché de la VOD gratuite a généré en 2017 un chiffre d'affaires de 27 milliards de dollars, un chiffre qui pourrait doubler dans les deux années à venir.
La VOD gratuite, la VOD, comme dit voilà. Jean-David Blanc. Et on termine ce journal avec un concert surprise.
Concert acoustique inédit de Taylor Swift, la superstar américaine l'a annoncé hier après-midi et il sera disponible dès ce matin sur Disney+. Il s'appelle Folklore Sessions au Long Pond Studio. Elle y interprète les 17 titres de son dernier album surprise Folklore. Elle l'a sorti cet été, moins de 24 heures après avoir prévenu ses fans. Ça devient une habitude.
Et cet album qui s'est vendu en 800 000 exemplaires dès sa première semaine. Merci beaucoup Charles Decan, le journal des médias revient demain, mais vous restez avec nous. On va parler d'un sujet que vous connaissez très très bien et que vous appréciez. Les téléfilms de Noël, ils ont envahi les programmes de quelques chaînes de télé, celles du groupe TF1 notamment. Nous serons avec celui qui achète ses fictions pour le groupe, Jonathan Escarpiado. A tout de suite.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Vondel.
Attention, info, Noël approche. On est le 25 et c'est dans un mois, jour pour jour.
C'est une exclusivité Europe 1.
Oui, ça commence à se voir dans les rues. Les décos sont installés peu à peu, bien plus tard que les années précédentes. À cause du confinement, les décorations de Noël, en revanche, à la télévision et sur les plateformes, c'est l'inverse. Bien plus tôt que d'habitude, ça fait déjà près d'un mois et demi que les téléfilms de Noël ont envahi nos écrans. Et vous savez quoi? Ça marche. Des millions de Français les regardent chaque semaine. Pourquoi ont-ils autant de succès? Comment sont-ils fabriqués? Et que nous disent-ils de notre rapport à la télévision? Pour répondre à ces questions, deux invités, Jonathan Escarpiado, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur adjoint des acquisitions du groupe TF1 et c'est vous qui regardez et qui achetez les dizaines de téléfilms de Noël pour le groupe. Charles Decan qui est resté avec nous. Charles Decan, oui. Avec ce Jingle Bells jazzy choisi par Nico. Souvent, en plus d'être journaliste, vous êtes fin connaisseur et amateur de téléfilms de Noël. Et je le dis, si vous nous regardez sur Europe1.fr, profitez-en. Vous avez mis votre plus beau pull de Noël
le plus beau.
Ce matin. Esprit de Noël dans Culture Média. Esprit de Noël qui investit les antennes du groupe TF1 depuis 3 semaines maintenant. Un téléfilm le matin sur TMC, 2 téléfilms l'après-midi sur TF1. Ça, c'est pour la semaine. Et le week-end, 4 téléfilms le samedi sur TF1 Série Film, 5 le dimanche sur TMC. En tout, on a compté 24 par semaine. Pourquoi en programmer autant?
En fait, c'est assez simple. Depuis maintenant quelques années, on voit que c'est un genre qui plaît beaucoup aux téléspectateurs, qui est assez salutaire, je crois, à cette période de l'année. C'est vraiment un moment qu'on attend. On est beaucoup à attendre ce moment-là dans l'année pour souffler, penser à autre chose, je crois, surtout en 2020.
Ouais.
On a beaucoup parlé du Covid, donc on a aussi envie de parler d'autre chose, de se détendre un peu et d'avoir un peu de légèreté. Donc on contribue à ça avec notre programmation.
Et attendez, c'est pas fini. Vous nous annoncez que ce matin, qu'à partir du 14 décembre, TF1 va passer de 2 à 3 téléfilms de Noël. Ça veut dire que vous êtes content des audiences. En général, on met pas à l'antenne un truc qui met un programme
exactement,
qui marche pas.
Exactement, c'est très pragmatique, vous avez raison. Alors là, c'est assez exceptionnel. Hein. Pour le coup, habituellement, on en fait vraiment 2. L'idée, c'est pas non plus d'être trop gourmand.
Mm-hmm.
En l'occurrence, oui, les audiences sont vraiment impressionnantes. Année après année, on est toujours content de découvrir les audiences. Encore hier, on monte à plus de 30% de part d'audience sur les femmes de moins de 50 ans. Donc oui, c'est assez exceptionnel, on est très content.
Habituellement, vous faites combien sur cette cible-là et sur la cible généraliste, sur cette case?
Habituellement, en fait, on fait autour de 22-23%, donc là on monte à plus de 30%. Et puis surtout, ce qui est assez étonnant, notamment cette année, peut-être avec le confinement en plus, on fait quasiment 2 millions de téléspectateurs chaque jour. Et ça, c'est assez exceptionnel, parce que d'habitude, là aussi, on est plutôt autour de 1,5 million, 1,4 million, 1,5 million, donc... Oui, il se passe quelque chose chaque année et peut-être encore plus cette année.
Vous voulez dire que ce n'est pas seulement l'effet confinement, c'est également l'effet confinement plus téléfilms de Noël.
Exactement, c'est ça.
Charles, il y a 2 autres groupes qui diffusent des téléfilms de Noël. Il y a le groupe M6 sur M6 et W9 et le groupe Canal avec C8. Qui gagne la bataille des audiences, Charles?
Alors, il faut différencier les heures de diffusion. On commence par le matin. En semaine, C8 propose 2 téléfilms et TMC en propose 1. Alors, les scores sont à peu près similaires et ils ne sont pas transcendants. 110 000 téléspectateurs sur C8 sur le mois de novembre, 140 000 sur TMC et entre 2 et 2,5% de part d'audience. Donc, le matin, a priori, c'est quand même pas quelque chose qui fait énormément venir les gens.
Juste un mot, ils se mettent d'accord de manière implicite, un petit peu comme pour les feuilletons, ou est-ce qu'ils diffusent au même moment, ou est-ce qu'ils attendent qu'un téléfilm est terminé sur une chaîne pour lancer le leur?
Non, il n'y a pas d'accord sur les horaires, c'est en fonction de leur grille.
Ça
fait sourire Jonathan Escarpiado.
Non, on se met pas d'accord avec les concurrents. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on observe quand même évidemment ce qu'ils font et on essaye de s'accorder pour pas non plus empiéter sur nos plates-bandes, mais il n'y a pas d'arrangement en amont en tout cas.
Alors, en ce qui concerne les après-midi en semaine, donc c'est TF1 qui affronte M6. M6 qui avait été la première à parier comme ça sur les téléfilms de Noël, mais son antériorité n'a pas payé. TF1 fait 3 fois plus d'audience qu'M6, qui a d'ailleurs réduit la voilure. Cette année, ne propose plus qu'un seul téléfilm de Noël chaque après-midi. Sur TF1, donc on le disait, 1 900 000 personnes et 21% de part d'audience, donc sur l'ensemble du public, pas sur les femmes de moins de 50 ans. Et sur M6, 640 000 et 7% de part d'audience seulement, donc c'est pour ça qu'ils ont fait marche arrière. Et le week-end, alors ça se bouscule l'après-midi, il y en a sur C8, TMC, W9 et TF1 Série Film, entre le samedi et le dimanche, la grande gagnante, c'est TMC du groupe TF1, qui frôle le million de téléspectateurs le dimanche, plus de 6% de part d'audience et quasiment 10% sur les femmes de moins de 50 ans.
Alors on a bien compris, ça marche beaucoup. Comment vous expliquez succès, tant est qu'on puisse l'expliquer, à part l'effet antidépresseur chaleureux ?
Alors je crois que c'est quand même l'effet principal. Après c'est comme je disais tout à l'heure, un moment dans l'année qu'on attend tous, un repère aussi qui traverse les années. Je crois que ça c'est vraiment aussi l'une des fonctions de la télévision, et je crois que TF1 sait le faire. C'est-à-dire que c'est un rendez-vous qui est là depuis des années, et c'est un peu une valeur refuge, on aime bien s'y retrouver à chaque fois. Et puis après, c'est des valeurs qui appellent à l'enfance, à la famille, donc tout ça est très rassurant et ça fait du bien. Un peu de légèreté dans ce monde de brut, c'est bienvenu.
Il y a des valeurs qui rassemblent, il y a des groupes de fans sur Facebook, il y a même un compte Twitter dédié qui s'appelle Téléfilm de Noël. On y trouve quoi, Charles ?
Oui, alors, en ce qui concerne la France, effectivement, il y a un compte Twitter qui recense le nombre de téléfilms par semaine. Donc c'est comme ça qu'on sait que cette semaine, il y en a 77 sur toutes les chaînes françaises. Il y a des petits groupes Facebook, on compte en centaines ou en milliers de membres. En revanche, aux États-Unis, il y a énormément de groupes Facebook avec des dizaines de milliers de membres. Il y a des chaînes elles-mêmes qui alimentent leur propre communauté de fans de films de Noël. Donc voilà, j'imagine, vu que la France suit toujours un petit peu ce qui se passe aux États-Unis, notamment sur les téléfilms, que ça va grossir de notre côté assez rapidement.
Jonathan Scarpiado, est-ce que vous savez qui regarde en majorité ces téléfilms ? Quel est le public ?
Le public, ça va être quand même essentiellement les femmes de moins de 50 ans, ça on s'en parlait, qui reste quand même une cible prioritaire évidemment pour TF1. Et puis après, la satisfaction qu'on a, c'est que c'est quand même toujours un public très large. On a à la fois des seniors et à la fois des plus jeunes. Donc c'est assez convenu ce que je dis, mais sincèrement, c'est l'un des types de programmes les plus larges aujourd'hui qu'on ait.
De toute façon, c'est bien simple, si tout le monde le fait, c'est que ça marche.
Exactement, enfin, il y a évidemment toujours cette logique-là derrière.
Aucune chaîne de télévision n'est suicidaire. Vous restez avec nous, Jonathan Escarpiado, vous restez avec nous, Charles Decan, avec ce très très joli pull à visionner, à admirer sur Europe1.fr. Culture Média continue, et on a des sons à vous passer, vous allez aimer.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Jonathan Escarpiado, il est responsable d'achat de films au sein du groupe TF1 et notamment des films de Noël, très attendus, très regardés. Avec nous, Charles Decan. En même temps, vous n'êtes pas spécialement spécialiste des téléfilms de Noël, mais vous aimez, vous les regardez à l'occasion vous-même.
Oui, j'en regarde une fois de temps en temps. En fait, c'est généralement un peu la règle. On tombe dessus un peu par hasard et puis on reste jusqu'à la fin pour être sûr que les héros finissent bien ensemble.
Ça termine toujours bien, justement.
Ça termine toujours bien.
On va parler de ça, des codes du genre téléfilm de Noël. Comme dans tous les genres, il y a des règles, des codes, quelques indices avec cette bande-annonce qu'on a pu voir il y a quelques semaines sur TF1.
T'entends ça ?
Qu'est-ce que c'est que ça ? Regardez ! Un peu d'amour, un peu d'humour et beaucoup d'émotion.
J'aime les histoires qui réchauffent le cœur.
C'est incroyable !
C'est ça qu'il nous faut, un beau conte de Noël.
La magie de Noël s'installe sur TF1.
Je crois que je viens d'avoir mon premier cadeau de Noël.
Dès le 2 novembre à 13h55, retrouvez chaque jour une histoire de Noël inédite sur TF1.
Et ce qui est incroyable, c'est que cette bande-annonce sert pour chaque film. Donc il y a des invariants. C'est quoi, Charles Decan, les principales règles ? Qu'est-ce qu'on y trouve ?
Alors généralement, on retrouve toujours une histoire de retour aux sources. Il y a cette idée de la rédemption, de se rendre compte de ce qui est important dans la vie. La rencontre généralement entre une héroïne et un héros qui ont des valeurs assez opposées. Il y a toujours celui qui croit à Noël, qui est à fond dans l'esprit de Noël, et celui ou celle qui est au contraire complètement blasé. Et finalement, leur rencontre va faire qu'ils se rendent compte qu'ils ont beaucoup de choses en commun. Et donc forcément une histoire d'amour, les films de Noël c'est avant tout des comédies romantiques. Ensuite, en termes de casting, alors c'est pas forcément des acteurs dont on connaît le nom, mais c'est des acteurs dont on connaît le visage. C'est des gens qu'on a vus dans des séries, qu'on est content de retrouver, même si on les a vus dans 10 téléfilms de Noël, parce qu'il y en a qui deviennent vraiment des stars du téléfilm de Noël. C'est pas forcément des gens dont on connaît le nom, c'est pas des énormes stars, mais ça fonctionne, on est content de les retrouver. Et puis il y a cette notion de valeur d'entraide. En fait, on se retrouve à l'opposé de tout tout ce qui est le stress du quotidien, des valeurs de la réussite, de l'ambition, le stress. Généralement, il y a une personne qui vient, un des héros qui vient d'une grande ville par opposition aux valeurs de simplicité de la petite ville. Donc c'est comme ça, cette rencontre entre deux mondes différents. Et à la fin, on se rend compte de ce qui est important.
Jonathan Escarpiado approuve. C'est ça les critères.
Là, on peut embaucher tout de suite Charles aux acquisitions de TF1. Il a la recette.
Je vais écrire un téléfilm de Noël.
Non, on le garde avec nous. Il n'a pas de temps libre. Il y a de la musique aussi, il faut de la clochette.
Toujours, c'est important. Ça fait partie de la production d'un téléfilm, c'est un savoir-faire. Et la musique, évidemment, c'est très très important.
La preuve. On y est.
Là, il y en a de la clochette.
Il y a de la clochette, il y a de la musique, il y a des violons, ça tape jamais, il n'y a pas des grosses basses. Est-ce que la lumière, les couleurs, vous qui en voyez beaucoup, beaucoup, doivent répondre également à des règles strictes ?
Ce n'est pas des règles strictes, mais comme je parlais de qualité de production, dans le genre du téléfilm de Noël, ce qui est très important, c'est vraiment les décors.
Ouais.
C'est très, très important, très structurant, les décors, les costumes, la neige, évidemment.
Ah, il faut la neige.
C'est préférable. Après, voilà, on n'est pas dogmatique.
Y a J'en ai pas vu assez, mais il y a de la neige dans tous ou quasiment, Charles.
Il y a de la neige dans 95%, mieux, je pense, des téléfilms de Noël. Même quand ça se passe sous les tropiques, ils trouvent un moyen de mettre de la fausse neige. Le téléfilm de Netflix qui est sorti il n'y a pas longtemps, ça se passe donc sur une base militaire à l'autre bout du monde. Et ils font de la fausse neige juste pour une soirée, parce que sinon, c'est pas Noël.
Ah, mais c'est génial. Est-ce que vous connaissez les titres, Jonathan Escarpiado, des téléfilms que TF1 diffuse cet après-midi ?
Alors, cet après-midi, il va y avoir...
Vous êtes très fort, si vous
Noël
savez.
En héritage.
Oui, oui.
Le premier, c'est... je ne l'ai plus en tête.
La partition perdue
de Noël.
Ouais. De Noël. Alors, ces titres font également partie de quelques règles que doivent respecter ces téléfilms. Il faut que les titres soient courts, simples, avec le mot Noël dedans. Et c'est ce qu'avait remarqué notre camarade Bertrand Chameroy, Florilège.
Tout de suite, inédit, Noël sous le signe du destin, organisez le Noël parfait.
Le calendrier secret de Noël.
Noël sous le gui, embrassez l'esprit de Noël.
La chasse au trésor de Noël.
La clé d'un Noël réussi.
Noël à Crystal Falls.
Ça nous fait rigoler. Les titres sont traduits de l'anglais. C'est vous qui trouvez la version française ?
Ouais, on a quelqu'un dans l'équipe qui s'occupe particulièrement des téléfilms et qui cherche les titres chaque année. Donc il y a une trentaine de téléfilms à titrer en français, pas forcément traduits.
J'ai eu peur, j'ai cru que vous allez me dire qu'il y a une trentaine de personnes qui travaillent à trouver des titres.
Et donc sur son CV, cette personne écrit préposé au titre des téléfilms. Ben, ça, c'est quand même la classe.
Pas que ça,
Est-ce que les codes ont évolué ces dernières années ou est-ce que c'est un genre très très conservateur ? Est-ce que les films de Noël de 2020 sont les mêmes qu'en 2000 et les mêmes qu'en 90 ?
Non, c'est pas les mêmes. Je pense que là où il y a un sujet éditorial pour les Américains et aussi pour la France, c'est la diversité de la société qui est de plus en plus représentée, diversité ethnique, d'orientation sexuelle. Donc ça va plutôt dans le bon sens. Les Américains font des progrès et du coup nous on va en bénéficier, ça se voit de plus en plus à l'antenne. Donc à ce titre-là, il y a une évolution. Après, il faut être honnête, c'est un genre qui est encore une fois très codé, donc l'innovation, l'originalité, je ne crois pas que ce soit le critère numéro un qu'on recherche dans un téléfilm de Noël, au contraire, c'est très codé, donc on va chercher quelque chose qu'on connaît bien et c'est ce qui prime encore en 2020.
Charles, ça coûte combien un téléfilm de Noël ?
Alors, c'est une vraie industrie aux États-Unis parce qu'ils commencent à en produire des dizaines par an. Ça coûte à peu près 1 million de dollars, donc ça fait 800 000 euros grosso modo. Et ce qui est dingue, c'est que c'est chronométré. En fait, ça se tourne en 15 jours. Ça peut se tourner en 15 jours. Ça se tourne généralement en plein été, donc c'est ça aussi qui est impressionnant quand on voit tous ces acteurs avec leurs bonnets, leurs gros manteaux, etc. En fait, sous tout ça, ils transpirent parce qu'il fait 35 degrés. Donc oui, c'est en fait, ça coûte pas très très cher. Et après, surtout, c'est revendu partout dans le monde, donc c'est un business hyper lucratif.
Et oui, c'est rentable, Jonathan Escarpiado, vous les achetez à combien ? Ah, la louche, hein ! Trahissez pas un secret, mais en gros, les chaînes françaises les achètent combien ?
Alors, je vais vous décevoir, travaillant la direction des programmes, moi j'ai vraiment une casquette purement éditoriale. Mon rôle, c'est de trouver le meilleur contenu. Après, ce que je peux vous dire, c'est que la direction financière ne m'a jamais appelé pour me tirer les oreilles. Jusqu'ici, il faut croire que ça se passe bien. Donc après, les chiffres précis, je vais malheureusement pas pouvoir vous les donner.
Il y a une bataille avec les autres chaînes pour avoir les meilleurs téléfilms.
Il y a une bataille avec les autres chaînes, c'est toujours concurrentiel évidemment. Après, c'est quand même très cadré au sens où, si vous voulez, on a des accords avec des producteurs américains qui sont signés très en amont. Donc, une fois qu'on a nos partenaires et qu'on a nos canaux privilégiés, on n'en sort pas énormément. Donc, à partir du moment où c'est cadré, la guerre, entre guillemets, concurrentielle reste relative.
Sont des États-Unis que viennent ces téléfilms de Noël en quasi-totalité, 99%. Les autres, ils viennent d'où ? On en produit parfois en France ou pas ?
Alors en France, il y en a. Après, c'est moins de mon champ de compétences. Mais il y a de la fiction française, évidemment, qu'on voit plutôt en prime, par exemple. Le 7 décembre, il y aura un bébé pour Noël avec Laetitia Milo, mais ça, c'est encore une fois pas du tout dans mon champ d'action.
Ouais.
Pour ce qui concerne les après-midi, vraiment, partons du principe qu'il n'y a que les Américains aujourd'hui sur ce marché.
Et celui-ci dont vous parlez, Un bébé pour Noël avec Laetitia Milo, c'est un film de Noël orthodoxe, avec de la neige, avec le sapin, avec...
Alors ça, honnêtement, encore une fois, moi, je peux pas trop vous en parler parce que je m'occupe de la fiction étrangère, donc je suis désolé, mais...
Dis donc, le gars, il a même pas le temps de regarder les films français. cette semaine, 77 téléfilms de Noël vont être diffusés sur les 6 chaînes françaises qui les programment. 77, dont 8 seulement, on a regardé, sont inédits. Donc beaucoup, beaucoup de rediffusions. Pourquoi aussi peu d'inédits ?
En fait, c'est sur la TNT que vous allez avoir beaucoup de rediffusions. Après, honnêtement, sur TF1, c'est tout l'inverse. On essaye d'avoir beaucoup d'inédits. On fait un inédit par jour. Donc c'est une grosse exigence qu'on a. À partir de là, sur la TNT, c'est assez simple. Lorsque vous achetez des droits pour TF1, en général, vous en faites profiter aussi la TNT.
Ouais.
Mais l'inédit reste préposé à TF1.
Et les gens, ça ne les dérange pas de regarder Charles de Caen ? Ça vous dérange de regarder une rediff de Noël ?
Pas trop.
Antoine Genton, notre rédacteur en chef, me donne cette info cruciale. Il y aura bien de la neige dans le film de Noël de Laetitia Milo.
L'honneur est sauf.
L'honneur est sauf, le genre est sauf. Merci beaucoup Jonathan Escarpiado.
Merci.
Vous êtes directeur adjoint des acquisitions du groupe TF1. Et merci Charles Decan, que je ne présente pas, mais je dis quand même que vous serez là demain pour le et journal des médias. Merci d'avoir été avec nous en direct.
Merci.
Dans un instant, Culture Média continue évidemment. On va parler du premier journal français, c'est Ouest France. Et il lance sur le vif sa nouvelle offre d'abonnement à destination des jeunes lecteurs de 18 à 25 ans. Vous savez quoi ? C'est gratuit pendant un an. On en parle avec le rédacteur en chef du quotidien, François-Xavier Lefranc, pardon, et Caroline Tortelier. Elle est en charge de l'offre jeune. Elle est rédactrice en chef adjointe.
9h, 11h,
Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Bonjour François-Xavier Lefranc.
Bonjour Philippe.
Merci d'être avec nous. Je précise que vous êtes à distance. Vous êtes rédacteur en chef de Ouest France, comme on dit là-bas. Où vous trouvez-vous exactement géographiquement à l'instant même où on se parle ?
Eh bien, je suis à Rennes, au siège de Ouest France, dans la banlieue rennaise.
Pour situer Ouest France, premier quotidien français, combien de lecteurs en digital, combien d'abonnements, juste pour avoir le périmètre et la surface de Ouest France ?
Alors, c'est presque chaque jour 4 millions de lecteurs sur plein de supports, dont un journal qui est, il faut quand même le rappeler, le plus grand journal francophone au monde en diffusion. Le journal est tiré à peu près à 700 000 exemplaires. On a une grande plateforme numérique qui est l'une des premières plateformes d'information en France. Et en nombre d'abonnés, print numérique, on approche les 550 000. Voilà, ça, je parle bien des abonnés, hein, des gens qui paient pour nous lire, en fait.
Ce qui est quand même considérable. Je savais que vous étiez le premier journal français. J'ignorais que vous étiez le premier journal francophone. Bonjour, Caroline Tortelier.
Bonjour.
Mais vous êtes rédactrice en chef en charge de l'offre jeune, on va en parler. Même question qu'à François-Xavier Lefranc, où vous trouvez-vous ? Vous êtes au même endroit ?
Alors je suis à quelques pas de François-Xavier Lefranc, dans mon bureau également à Rennes, au siège du journal.
Alors vous êtes rédactrice en chef en charge de l'offre jeune de Ouest France. Le problème de la presse papier qui est universel pour tous les journaux, tous les quotidiens, c'est en partie le vieillissement du lectorat, d'où cette offre ciblée sur les 18-25 ans que vous lancez. Elle s'appelle Sur le vif. En quoi consiste-t-elle, Caroline Tortelier ?
Alors, à cette rentrée un petit peu particulière, on a voulu marier deux engagements. Un engagement commercial, effectivement, où on voulait offrir à nos 18-25 ans un abonnement totalement gratuit. Donc, ils ont, sur inscription, ils ont tout le journal disponible tous les jours dès 5h du matin en version numérique. Ils ont l'intégralité des articles payants sur le site et toutes nos offres. Et on a voulu marier cet engagement éditorial qu'on porte depuis plusieurs années. On avait des offres qu'on offrait à des étudiants, on a voulu élargir et montrer à nos jeunes lecteurs qu'on était présents et qu'on voulait les accompagner.
Tout est gratuit pendant combien de temps ?
Pendant un an.
Qui peut
pendant un an, ils ont absolument tout. Oui.
Qui peut s'abonner ? Dans quelles conditions ? D'abord, c'est sans engagement ?
Alors, sans engagement.
Ou est-ce que parfois, comme vous savez, comme pour les portables, c'est gratuit pendant un an, mais après, il faut payer ?
Non, pas du tout. C'est très simple, en fait. Il suffit simplement de s'inscrire. On demande simplement une copie de la carte d'identité pour bien prouver que vous êtes entre les 18 et les 25 ans.
Ouais. Comment être certain que c'est bien un 18-25 ans qui s'abonne et pas son papa ou sa maman et qui s'en sert ensuite comme prête-nom ? Ou alors, est-ce que ceci ne vous dérange pas et ça vous permet quand même de faire une sorte de recrutement ?
Écoutez, on part un peu du principe qu'on a un contrat de confiance. Alors effectivement, vous pouvez toujours emprunter les cartes d'identité de votre jeune voisin, mais on part du principe que, bah, tant pis, on offre malgré tout cet abonnement.
Je voudrais entendre la voix de François-Xavier Lefranc. Je fais un peu de l'humour, mais quand même. Un an gratuit, ensuite, ça devient payant. C'est un peu le principe du dealer. D'abord, la drogue est gratuite, et une fois que les gens deviennent accros, il faut passer à la caisse.
D'abord, si vous voulez, le fait d'avoir un jour à payer l'information, ça n'a rien de scandaleux. Si on veut de l'information de qualité, il faut bien comprendre qu'elle a un prix.
Je me permets de vous interrompre pour vous dire que je suis absolument d'accord avec vous.
Bon, eh bien, écoutez, c'est bien. Alors, là, en l'occurrence, on s'adresse à un public qui, la plupart du temps, n'a pas les moyens de s'abonner. Beaucoup de jeunes de 18 à 25 ans n'ont absolument pas les moyens de payer un abonnement. Or, nous, on diffuse en permanence des informations culturelles, sportives, sur l'international, sur l'engagement, sur la formation, sur les métiers, plein de choses qui les intéressent. Et donc, on veut les faire venir découvrir tous ces contenus. Il y en a déjà beaucoup parce qu'on a beaucoup de lecteurs jeunes. Et on se dit que peut-être plus tard, quand ils auront un peu plus de moyens financiers, peut-être qu'ils continueront à nous lire parce qu'ils auront confiance dans ce titre. Donc, c'est en fait un pari sur l'avenir. Mais on a pris l'habitude aussi de diffuser le journal, même le journal physique auprès de, par exemple, d'universités ou de centres de formation, parce que on pense qu'il est important que les jeunes prennent conscience que Ouest France est aussi un grand média pour eux et qu'il y a énormément de contenu qui les concerne. Et on verra plus tard. Mais je crois que c'est absolument essentiel de partager avec eux tout ce que l'on fait, parce qu'il y a énormément de contenu. Je parlais de l'international, c'est quelque chose qu'on développe énormément, nous, à Ouest France. Ouais. Les jeunes sont très tournés vers le monde. Eh bien, on a plein de choses à faire ensemble, on est convaincus.
Oui, Ouest France, il faut le dire, c'est plus seulement un journal régional avec des nécrologies et le résultat du concours de boules à la buvette.
Ah, écoutez, c'est un grand média francophone qui est fait sur un territoire, mais qui parle du monde en permanence, qui diffuse chaque semaine des choix d'articles sur la vie politique américaine, par exemple, et sur plein de sujets internationaux. On a un grand service international. On a les élections américaines, par exemple. Pour nous, ça a été un très gros effort éditorial. On vient de boucler deux grands reportages à Beyrouth. On a une soixantaine de correspondants dans le monde entier. C'est ça, Ouest France. En fait, c'est vraiment l'info vue de la commune au monde. Alors, vous parliez de l'Ouest tout à l'heure, on est entre l'Atlantique et la Manche. Et ben, d'ici, on a toujours regardé le monde. Hein. C'est une région qui a toujours été tournée vers le monde. Donc, finalement, c'est assez naturel que Ouest France soit comme ça, soit devenu ce qu'il est aujourd'hui. Et nous, presse régionale, presse nationale, on ne sait pas ce que ça veut dire. Je pense que, je dis souvent, la nation, elle rayonne sur une diversité de territoires, et la vraie presse nationale, ben, c'est tous ces médias.
Évidemment.
Et maintenant, avec Internet. Qu'ils soient d'outre-mer, d'Île-de-France ou de l'Ouest.
Et maintenant, avec Internet, évidemment, la frontière est de plus en plus ténue. Le dossier de presse indique que la réaction d'Ouest France va développer la création en parallèle de formats adaptés et plébiscités pour les 18-25 ans, notamment la vidéo, les stories, les réseaux sociaux, les podcasts. On verra quoi, Caroline Tortelier?
Alors, en fait, tout ce que la rédaction publie dans ses différents supports, le journal papier et sur le site, on a décidé d'en faire des formats un petit peu à part pour cette cible qui est plus mobile, donc qui se retrouve davantage sur les réseaux sociaux. C'est une cible qui est plus volatile et sans doute plus exigeante dans son temps d'attention. Donc, on transforme des longs formats papier en petites vidéos de 3-4 minutes pour donner un condensé de ce qu'on va trouver dans le journal.
On va entendre des exemples de cet esprit. On continue de parler de la nouvelle offre d'abonnement de Ouest France destinée aux 18-25 ans avec son rédacteur en chef François-Xavier Lefranc et la rédactrice en chef que vous venez d'entendre, rédac-chef déléguée à l'offre jeune, Caroline Tortelier. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Sur le vif, c'est la nouvelle offre ciblée sur les 18-25 ans du quotidien Ouest France, premier journal en France, le plus diffusé. Il est premier, 631 000 exemplaires. Deuxième, Le Monde, 336 000, c'est presque le double. Troisième, Le Figaro, ensuite L'Équipe et ensuite Sud-Ouest, quotidien régional. Nous en parlons avec François-Xavier Lefranc, qui est rédac-chef et la rédactrice en chef déléguée à cette offre jeune, justement, Caroline Tortelier. Il y a un compte Instagram, on en parlait, sur le vif, on y trouve des vidéos, par exemple, avec le comédien Jonathan Cohen. Vous lui avez demandé une impro sur son pire rancard, mais avec des mots imposés tels que Mylène Farmer, guirlande de Noël ou drapeau breton. On écoute Jonathan Cohen dans ses œuvres.
C'était un concert de Mylène Farmer. Bon, alors déjà, c'était très bizarre parce qu'on était à Paris et il n'y avait que des drapeaux bretons. Donc je me disais, qu'est-ce qui se passe? C'est les Bretons qui ont payé le concert?
Caroline Tortelier, c'est encore plus drôle sur la longueur parce que ça devient complètement absurde. Où est-ce que vous faites ces tournages? Vous avez une équipe à Paris? Où est-ce que vous attendez qu'ils passent par Rennes ou la Bretagne pour faire ces vidéos?
On a de la chance. En fait, nos invités viennent jusqu'à nous, au siège à Rennes. On reçoit pas mal d'invités, des acteurs, des chanteurs, des écrivains. Ils viennent jusqu'ici. Ils ont le plaisir de voir ce plateau de notre journal. Ils voient les rotatives et on leur fait une belle visite. Mmh. Et on profite, nous, de leur présence pour leur faire rencontrer aussi des abonnés. Donc, d'où cette offre aussi sur le vif pour les 18-25 ans. L'idée, c'est de faire venir nos abonnés, nos jeunes abonnés, venir rencontrer nos invités. C'est l'occasion, du coup, de leur faire faire un petit exercice de style, comme on a pu entendre tout à l'heure, avec nos vidéastes ici. On a tout ce qu'il faut sur le plateau.
Alors,
des gens qui font de la vidéo, du montage, et ils se prêtent gentiment à nos petits pièges.
Autre exercice de style avec Amélie Nothomb. Elle n'est pas humoriste comme Jonathan Cohen, mais romancière. Et vous lui demandez un portrait chinois exemple.
Je serais un animal qui volerait, donc à mon avis un oiseau, plutôt qu'une mouche. Personne n'a envie d'être une mouche.
Et alors nous, ce qu'on a beaucoup aimé ici, c'est sa conclusion, celle d'Amélie Nothomb, en toute fin de l'exercice. Je ne sais pas si elle savait, vous allez me dire, si elle savait que tout ceci serait conservé au montage.
J'aime beaucoup cette interview. Ça exige d'être très prétentieux, mais bon, je suis allée franco. Hein.
Voilà, elle a été prétentieuse, mais elle était talentueuse. Il y en a combien par jour, plutôt? Il y en a combien par, j'arrive plus à trouver mes mots, par semaine?
Alors,
c'est quoi la...
Alors, le problème.
Allez-y.
Ouais.
Moi aussi, j'ai un problème à faire ma phrase.
Non, si nous étions dans un contexte hors Covid, nous aurions des vidéos de ce style-là une fois par semaine, on va dire, à peu près. Ouais. Le problème, c'est que nos invités ne peuvent plus venir jusqu'à nous. Chacun et chacune se protège du virus. Ouais. Donc, pour l'instant, nos portes restent presque fermées à nos invités. Mais dès qu'on pourra retrouver une situation sanitaire à peu près normale, on les fera venir ici. On s'interdit pas, et c'est la deuxième version de nos prochaines vidéos, on s'interdit pas de faire des vidéos à distance. Mmh. L'exercice n'est pas tout à fait le même et je vous avoue qu'on a un peu plus de mal à choper nos invités, mais ils nous disent qu'ils reviendront très vite.
À choper les invités. Moi, le mot qui me manquait, c'était périodicité. Vous annoncez également de l'interactivité avec des sondages, des débats pour faire entendre la voix des jeunes. Par exemple, quel genre de sondage? Ou le sens de ma question, c'est quelle différence avec les sondages qui existent déjà?
Nous, on...
C'est quoi c'est quoi un sondage spécial jeune?
Eh ben, un sondage spécial jeune, c'est comment vous vivez actuellement le confinement. Mmh. Vous êtes resté sur un campus à Nantes alors que la moitié des autres étudiants sont partis. Qu'est-ce qui s'y vit? Comment vous le vivez? Comment vous gardez pied dans vos études? Comment vous gardez contact avec votre famille qui est à distance? Voilà ces paroles qu'on essaye de faire émerger. On a une plateforme en fait qui s'appelle La Place. On y crée des débats. Alors les débats, c'est aussi les réseaux sociaux. Hein. On poste une information, notre communauté participe, enrichit et ils se parlent entre eux, mais on a aussi donc effectivement ces sondages où on va chercher la parole de nos jeunes et qui nous font émerger. Le télétravail pour ceux qui sont...
Je me permets de vous interrompre parce qu'on a plein de questions à vous poser. Est annoncé également un dispositif spécifique à Deezer et à Spotify. Ce sera quoi? Ce sera des podcasts?
Oui, tout à fait, ouais. Des podcasts, alors c'est sur toute l'actualité, ça peut être des paroles de sportifs aussi qu'on a réussi à capter. Si nos invités s'y prêtent au jeu, on aura nos invités également en podcast, tout à fait.
Un mot sur la place des femmes à Ouest-France, je vous en parle à tous les deux. Je vous en parle parce qu'en 2019, Ouest-France avait obtenu un score de 71% selon l'index de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. La loi du 5 septembre 2018 impose aux entreprises d'avoir un score minimum de 75%. Et alors ce mauvais score était lié à l'absence de femmes parmi les 10 plus gros salaires de la société. Caroline Tortelier, pardon de vous poser la question, est-ce que vous faites partie des 10 plus gros salaires de la société désormais?
Écoutez, je n'ai pas cherché à savoir quels étaient les salaires de mes camarades, mais je peux simplement vous dire qu'en termes de postes à responsabilité, il y a effectivement de plus en plus de femmes.
C'est dans la loi, oui, parce qu'en 2019, la lettre A, qui est une lettre confidentielle spécialisée, notait qu'Ouest-France ne comptait que 2 rédactrices en chef dans ses rangs. Est-ce que c'est toujours le cas ou est-ce que vous êtes plus nombreuses?
Alors actuellement, nous sommes 3.
Et ben voilà, vous êtes trois, ça progresse. François-Xavier Lefranc, question technique. Dimanche dernier, vous n'avez publié qu'une seule édition de votre journal au lieu de 10 après avoir été victime d'un virus informatique. Est-ce que le système est reparti? Est-ce que tout va bien maintenant?
Oui, c'est ce qu'on appelle un acte cybermalveillant. Donc, ouais. Effectivement, on a été confronté à ça, on a fait face, le journal est sorti, le journal sort et toutes nos plateformes numériques sont évidemment accessibles. Juste peut-être une chose, j'avais une question à vous poser, Philippe.
Allez-y.
Est-ce que vous savez qui est propriétaire de Ouest France ?
Bien sûr, c'est une association qui a un nom très très long et dont le président a changé il y a très peu de temps. C'était Jacques Duquesne qui en était le président. Vous allez me préciser ça ?
Oui, c'est l'Association pour le soutien des principes de la démocratie humaniste, qui est présidée par David Guiraud. Et si je vous dis ça, c'est parce que c'est ce qui donne du sens à tout ce qu'on fait, si vous voulez. On s'adresse aux jeunes parce qu'on pense que l'accès à l'information, c'est essentiel dans une démocratie. L'information de qualité et la facilité d'accès à l'information. On mène plein d'actions. Sachez par exemple qu'on distribue gratuitement dans l'Ouest le journal dans les cellules, dans les prisons, parce qu'on estime que l'accès à l'information, c'est le début de la réinsertion. Et notre combat, c'est celui-là. C'est une information accessible, donc accessible par le prix. On veut être un média peu cher, on veut être un média populaire dans le sens le plus noble du terme, et notre action en direction des jeunes, c'est ça qui lui donne du sens.
Ça sera
voilà ce qu'on veut faire.
Ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup François-Xavier Lefranc, rédacteur chef de Ouest France, premier quotidien francophone au monde. Merci beaucoup Caroline Tortelier, vous êtes rédacteur chef délégué en charge de l'offre jeune, et je rappelle sur le vif, offre destinée aux 18-25 ans, profitez-en, c'est gratuit pendant un an, où qu'on habite dans le monde. Culture Média continue, il y aura le rappel des titres, il y aura Eva Rock, il y aura Bertrand Chameroy, notre invité c'est le chanteur Jérémy Frérot, et puis dans les indispensables, une série espagnole et un jeu vidéo qui nous apprend à mixer comme un DJ. À tout de suite.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.